Le talon de fer, chapitre 8, les briseurs de machines. Peu de temps avant qu'Ernest se présentât comme candidat au Congrès sur la liste socialiste, Père donna ce qu'il appelait à huis clos la soirée des profits et pertes, et mon fiancé le soir des briseurs de machines. Ce n'était en réalité qu'un dîner d'hommes d'affaires, le menu fretin naturellement. Je ne crois pas qu'aucun d'entre eux fut intéressé dans une entreprise dont le capital dépassa 200 000 $. Il représentait parfaitement la classe moyenne du négoce. Il y avait là M. Owen, de la maison Silverberg, Owen et Compagnie, une grosse firme d'épicerie avec de nombreuses succursales dont nous étions les clients. Il y avait les associés du grand dépôt de produits pharmaceutiques Cowalt et Washburn, ainsi que M. Asmundsen, possesseur d'une importante carrière de granit dans le comté de Contra Costa, et beaucoup d'autres du même genre, propriétaires ou copropriétaires de petites manufactures, de petits commerces et de petites entreprises, en un mot, des petits capitalistes. C'étaient des gens assez intéressants, avec leurs figures rusées et leur langage simple et clair. Ils se plaignaient à l'unanimité des consortiums et leur mot d'ordre était « crevons les trusts ». Ceci, pour eux, représentait la source de toute oppression et tous, sans exception, récitaient la même complainte. Ils auraient voulu que le gouvernement prît possession d'exploitations comme les chemins de fer ou les postes et télégraphes, et il préconisait l'établissement d'impôts énormes et férocement progressifs sur le revenu afin de détruire les vastes accumulations de capital. Il prônait aussi, en guise de remède à des misères locales, la propriété municipale d'entreprises d'utilité publique telles que l'eau, le gaz, les téléphones et les tramways. M. Asmundsen fit un récit particulièrement curieux de ses tribulations en tant que propriétaire d'une carrière. Il avoua que celle-ci ne lui avait jamais rapporté aucun profit, malgré l'énorme masse de commandes que lui avait procurée la destruction de San Francisco par le grand tremblement de terre. La reconstruction de cette ville avait duré 6 années, pendant lesquelles le chiffre de ses affaires s'était trouvé quadruplé et octuplé, mais lui ne s'en trouvait pas plus riche. « La compagnie du chemin de fer est un peu mieux que moi au courant de mes affaires, » expliqua-t-il. « Elle connaît à un centime près mes dépenses d'exploitation, et elle sait par cœur les termes de mes contrats. Comment est-elle si bien renseignée ? Je ne puis que le conjecturer. Elle doit payer des espions parmi mes employés et semble avoir accès près de tous mes partenaires. Car écoutez bien ceci, à peine ai-je signé un gros traité dont les termes me sont favorables et m'assurent un coquet bénéfice que les prix de transport à pied d'œuvre sont augmentés comme par enchantement. On ne me donne pas d'explication. C'est le chemin de fer qui prend mon profit. En pareil cas, je n'ai jamais pu décider la compagnie à réviser ses tarifs. Par contre, à la suite d'accidents ou d'une augmentation de frais d'exploitation, ou après la signature de contrats moins avantageux pour moi, j'ai toujours réussi à obtenir un rabais. En somme, gros ou petit, le chemin de fer m'enlève tous mes gains. Ernest l'interrompit pour demander « Ce qui vous en reste, au bout du compte, et qui vaut à peu près, sans doute, au salaire que la compagnie vous accorderait comme directeur si elle était propriétaire de votre carrière.
« C'est cela même, » répondit M. Asmundsen.
« Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un relevé de mes comptes pour ces 10 dernières années, et j'ai constaté que mes gains revenaient précisément aux appointements d'un directeur. Il n'y aurait rien eu de changé si la compagnie avait possédé ma carrière et m'avait payé pour la faire marcher. »
« Avec cette différence, toutefois, » dit Ernest en riant, « qu'elle aurait dû se charger de tous les risques que vous avez eu l'obligeance d'assumer pour elle. »
« C'est très vrai, » reconnut M. Asmundsen avec mélancolie. Ayant laissé chacun exprimer ce qu'il avait à dire, Ernest se mit à poser des questions aux uns et aux autres. Il entreprit d'abord M. Owen.
« Voilà environ 6 mois que vous avez ouvert une succursale ici, à Berkeley. »
« Oui, » répondit M. Owen.
« Et depuis lors, j'ai remarqué que 3 petits épiciers de quartier avaient fermé boutique. »
« C'est sans doute votre succursale qui en a été cause. »«
Ils n'avaient aucune chance de lutter contre nous, »
affirma M. Owen avec un sourire satisfait.
« Pourquoi pas ? Nous avions plus de capital. Dans un gros commerce, la perte est toujours moindre et l'efficacité plus grande. »
« De sorte que votre magasin absorbait les profits des 3 petites boutiques.
Je comprends, mais dites-moi, que sont devenus les propriétaires de celles-ci ?
Il y en a un qui conduit nos camions de livraison. J'ignore ce que sont devenus les 2 autres. »
Ernest se tourna soudain vers M. Cowalt. « Vous vendez souvent à prix de revient, parfois même à perte. »
Note, at cut rate, une grosse compagnie pouvait vendre à perte plus longtemps qu'une petite, et c'était un moyen fréquemment employé pour la concurrence. Fin de la note.
Que sont devenus les propriétaires des petites pharmacies que vous avez mises au pied du mur?
L'un d'eux, M. Harsfurther, est actuellement à la tête de notre service des ordonnances.
Et vous avez absorbé les bénéfices qu'ils étaient en train de réaliser.
Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes dans les affaires.
Et vous, dit brusquement Ernest à M. Asmundsen, vous êtes dégoûté de ce que le chemin de fer ait soutiré vos gains?
M. Asmundsen fit oui de la tête.
Ce que vous voudriez, c'est réaliser des gains vous-même.
Nouveau signe d'assentiment. « Aux dépens d'autrui. »
Pas de réponse.
Ernest insista.
« Aux dépens d'autrui ?
C'est comme cela qu'on gagne de l'argent, »
répliqua sèchement M. Asmundsen. Ainsi, le jeu des affaires consiste à gagner de l'argent au détriment des autres et à empêcher les autres d'en gagner à vos propres dépens. C'est bien cela, n'est-ce pas ?
Ernest dut répéter sa question. Et M. Asmundsen finit par répondre.
Oui, c'est cela, sauf que nous ne faisons pas d'objection à ce que les autres fassent des profits tant qu'ils ne sont pas exorbitants.
Pas exorbitants, vous entendez gros sans doute.
Pourtant, vous ne voyez pas d'inconvénient à faire de gros bénéfices vous-même, sûrement, non?
M. Asmundsen avoua de bonne grâce sa faiblesse sur ce point. Alors Ernest s'en prit à un autre, un certain M. Calvin, jadis gros propriétaire de crèmerie.
« Il y a quelque temps, vous combattiez le trust du lait, » lui dit Ernest, « et maintenant vous êtes dans la politique agricole, dans le parti des granges. Comment se fait-il ? »
Note, Grange Politics. De nombreux efforts furent tentés à cette période pour organiser la classe décadente des fermiers en un parti politique, dans le but de détruire les trusts et cartels par de sévères mesures législatives. Tous ces efforts échouèrent finalement. Fin de la note.
« Oh, je n'ai pas abandonné la bataille !» répondit le personnage, qui, en effet, avait l'air assez agressif. « Je combats le trust sur le seul terrain où il soit possible de le combattre, sur le terrain politique. Je vais vous expliquer. Voilà quelques années, nous autres crémiers menions tout comme nous l'entendions. Cependant, vous vous faisiez concurrence les uns aux autres, interrompit Ernest. Oui, et c'est ce qui maintenait les bénéfices à un faible niveau. Nous essayâmes de nous organiser, mais il y avait toujours des crémiers indépendants qui perçaient à travers nos lignes. Puis vint le trust du lait. Financé par le capital en excédent de la Standard Oil, dit Ernest. Note, le premier grand trust qui ait réussi près d'une génération en avance sur les autres. Fin de la note. C'est juste, reconnut M. Calvin, mais nous l'ignorions à cette époque. Ces agents nous abordèrent la massue à la main. Ils nous posèrent ce dilemme. Entrer et nous engraisser, ou rester dehors et dépérir. La plupart d'entre nous entrèrent dans le trust et les autres crevèrent de faim. Oh, ça paya d'abord. Le lait fut augmenté d'un cent par litre et un quart de ce cent nous revenait. Les trois autres quarts allaient au trust. Puis le lait fut augmenté d'un autre cent, mais sur celui-ci, il ne nous revint rien du tout. Nos plaintes furent inutiles. Le trust s'était établi en maître. Nous nous aperçûmes que nous étions de simples pions sur l'échiquier. Et finalement, le quart de cent additionnel nous fut retiré. Puis le trust commença à nous serrer la vis. Que pouvions-nous faire? Nous fûmes pressurés. Il n'y avait pas de crémier. Il ne restait qu'un trust du lait. Mais avec le lait augmenté de 2 cents, il me semble que vous auriez pu soutenir la concurrence, suggéra Ernest avec malice. Nous le croyons aussi, nous avons essayé. Monsieur Calvin fit une pause. Et ce fut notre ruine. Le trust pouvait mettre le lait sur le marché à plus bas prix que nous. Il pouvait encore réaliser un léger bénéfice alors que nous vendions purement à perte. J'ai perdu 50 000 $ dans cette aventure. La plupart d'entre nous ont fait faillite. Les crémiers ont été balayés. Note, faillite ou banqueroute, institution spéciale qui permettait à l'industriel qui n'avait pas réussi de ne pas payer ses dettes et qui avait pour effet d'adoucir les conditions par trop sauvage de cette lutte à coups de griffes et de dents. Fin de la note. De sorte que le trust ayant pris vos bénéfices, dit Ernest, vous vous êtes jeté dans la politique pour qu'une législation nouvelle balaye le trust à son tour et vous permette de les reprendre. La figure de M. Calvin s'éclaira. C'est précisément ce que je dis dans mes conférences aux fermiers. Vous venez de concentrer tout notre programme dans une coque de noix. Et pourtant, le trust produit de lait à meilleur marché que les crémiers indépendants. Parbleu, il peut bien le faire, avec l'organisation splendide et l'outillage dernier modèle que lui permettent ses gros capitaux. Ceci est hors de discussion. Il peut certainement le faire, et qui plus est, il le fait, conclut Ernest. Monsieur Calvin se lança alors dans une vraie harangue politique pour exposer sa manière de voir. Plusieurs autres le suivirent avec chaleur et leur cri à tous était qu'il fallait détruire les trusts. « Pauvre simple d'esprit !» me chuchota Ernest. « Ce qu'il voit, il le voit bien. Seulement, il ne voit pas plus loin que le bout de leur nez. » Un peu plus tard, il reprit la conduite de la discussion et, selon son habitude caractéristique, la garda pour tout le restant de la soirée. « Je vous ai tous écoutés avec attention, commença-t-il, et je vois parfaitement que vous menez le jeu des affaires de façon orthodoxe. Pour vous, la vie se résume en profit.
vous avez la conviction ferme et tenace d'avoir été créés et mis au monde dans l'unique but de gagner de l'argent. Seulement, il y a un accroc. Au plus beau de votre profitable activité, survient le trust qui vous enlève vos bénéfices. Vous voilà dans un dilemme apparemment contraire au but de la création, et vous ne voyez d'autre moyen d'en sortir que l'anéantissement de cette intervention désastreuse. J'ai soigneusement noté vos paroles, et la seule épithète qui puisse vous résumer, je vais vous l'appliquer. Vous êtes des briseurs de machines. Savez-vous ce que ce mot-là veut dire? Permettez-moi de vous l'expliquer. En Angleterre, au XVIIIe siècle, hommes et femmes tissaient le drap sur des métiers à main dans leur propre maisonnette. C'était un procédé lent, maladroit et dispendieux, ce système de manufacture à domicile. Puis vint la machine à vapeur, avec son cortège d'engins à économiser le temps. Un millier de métiers assemblés dans une grande usine et actionnés par une machine centrale tissaient le drap à bien meilleur compte que ne pouvaient le faire chez eux les tisserands sur leurs métiers à main. À l'usine s'affirmait la combinaison devant laquelle s'efface la concurrence. Les hommes et les femmes qui avaient travaillé pour eux-mêmes sur des métiers à main venaient maintenant dans les fabriques et trimaient sur les métiers à vapeur, non plus pour eux-mêmes, mais pour les propriétaires capitalistes. Bientôt, de jeunes enfants pénèrent aux métiers mécaniques pour des salaires réduits et y remplacèrent les hommes. Les temps devinrent durs pour ceux-ci. Leur niveau de bien-être baissa rapidement. Ils mouraient de faim. Ils disaient que tout le mal venait des machines. Alors ils entreprirent de briser les machines. Ils n'y réussirent pas, et ils étaient de pauvres naïfs. Vous n'avez pas encore compris cette leçon, et vous voici, au bout d'un siècle et demi, essayant à votre tour de briser les machines. De votre propre aveu, les machines du trust font un travail plus efficace et à meilleur marché que vous. C'est pour cela que vous ne pouvez lutter contre elles. Et néanmoins, vous voudriez les briser. Vous êtes encore plus naïfs que les simples ouvriers d'Angleterre. Et pendant que vous ronchonnez qu'il faut rétablir la concurrence, les trusts continuent à vous détruire. Du premier au dernier, vous racontez la même histoire, la disparition de la rivalité et l'avènement de la combinaison. Vous-même, monsieur Owen, avez détruit la concurrence ici, à Berkeley, quand votre succursale a fait fermer boutique à trois petits épiciers, parce que votre association était plus avantageuse. Mais dès que vous sentez sur votre dos la pression d'autres combinaisons encore plus fortes, celle des trusts, vous vous mettez à pousser les hauts cris. C'est parce que vous n'êtes pas une grosse compagnie, tout simplement. Si vous étiez un trust de produits alimentaires pour tous les États-Unis, vous chanteriez une autre chanson, et votre antienne serait « Béni soient les trusts ». Et pourtant encore, non seulement votre petite combinaison n'est pas un consortium, mais vous-même avez conscience de son manque de force. Vous commencez à pressentir votre propre fin. Vous vous apercevez qu'avec toutes vos succursales, vous n'êtes qu'un pion sur le jeu. Vous voyez les intérêts puissants se dresser et croître de jour en jour. Vous sentez leurs mains gantées de fer s'abattre sur vos profits et en saisir une pincée de ci, une pincée de là, le trust des chemins de fer, le trust du pétrole, le trust de l'acier, le trust du charbon. Et vous savez qu'en fin de compte, ils vous détruiront, qu'ils vous prendront jusqu'au dernier pourcentage de vos médiocres bénéfices. Cela prouve, monsieur, que vous êtes mauvais joueur. Quand vous avez étranglé les trois épiciers d'ici,
Vous avez gonflé votre poitrine. Vous avez vanté l'efficacité et l'esprit d'entreprise. Vous avez envoyé votre épouse en Europe sur les profits que vous aviez réalisés en dévorant ses gagnes petits. C'est la doctrine de chien contre chien, et vous n'avez fait qu'une bouchée de vos rivaux. Mais voici qu'à votre tour vous êtes mordu par des molosses, et vous criez comme des putois. Et ce que je dis de vous est vrai pour tous ceux qui sont à cette table. Vous hurlez tous. Vous êtes en train de jouer une partie perdante, et c'est ce qui vous fait brailler. Seulement, en vous lamentant, vous n'êtes pas de franc jeu. Vous n'avouez pas que vous aimez vous-même attirer des profits des autres en les pressurant, et que si vous faites tout ce tintamarre, c'est parce que d'autres sont en train de vivre sur votre dos. Non, vous êtes trop malin pour cela. Vous dites tout autre chose. Vous faites des discours politiques de petits bourgeois, comme tout à l'heure Monsieur Calvin. Que disait-il? Voici quelques-unes de ces phrases que j'ai retenues. Nos principes originels sont solides. Ce qu'il faut à ce pays, c'est un retour aux méthodes américaines fondamentales, et que chacun soit libre de profiter des occasions avec des chances égales. L'esprit de liberté dans lequel est née cette nation. Revenons aux principes de nos aïeux. Quand il parlait de l'égalité de chance pour tous, il voulait dire la faculté de pressurer des bénéfices, cette licence qui lui est maintenant enlevée par les grands trusts. Et ce qu'il y a d'absurde là-dedans, c'est qu'à force de répéter ces phrases, vous avez fini par y ajouter foi. Vous désirez l'occasion de piller vos semblables à petite dose, et vous vous hypnotisez au point de croire que vous voulez la liberté. Vous êtes gloutons et insatiables, mais la magie de vos phrases vous persuade que vous faites preuve de patriotisme. Votre désir de gagner de l'argent, qui est de l'égoïsme pur et simple, vous le métamorphosez en sollicitude altruiste pour l'humanité souffrante. Voyons, ici, entre nous, soyez honnêtes pour une fois. Regardez la chose en face et énoncez-la en termes justes. On voyait autour de la table des faces congestionnées, exprimant une irritation mêlée d'une certaine inquiétude. Ils étaient un peu effrayés de ce jeune homme au visage glabre, de sa manière de balancer et d'asséner les mots, et de sa terrible façon d'appeler les choses par leur nom. Monsieur Calvin s'empressa de riposter. « Et pourquoi pas ? » demanda-t-il. « Pourquoi ne pourrions-nous pas retourner aux usages de nos pères qui ont fondé cette république ? Vous avez dit beaucoup de choses vraies, monsieur Everhart, si pénibles qu'elles aient pu nous paraître à avaler. Mais ici, entre nous, nous pouvons parler net. Rejetons les masques et acceptons la vérité telle que monsieur Everhart l'a carrément posée. C'est vrai que nous autres petits capitalistes faisons la chasse au profit et que les trusts nous les enlèvent. C'est vrai que nous voulons détruire les trusts afin de pouvoir garder nos gains. Et pourquoi ne le ferions-nous pas? Pourquoi pas, encore une fois, pourquoi pas? Ah, maintenant nous arrivons au fin mot de la question, dit Ernest d'un air satisfait. Pourquoi pas? Je vais essayer de vous le dire. Bien que ce ne soit guère facile. Vous autres, voyez-vous, vous avez étudié les affaires dans votre cercle restreint, mais vous n'avez pas du tout approfondi l'évolution sociale. Vous êtes en pleine période de transition dans l'évolution économique, mais vous n'y comprenez rien et de là vient tout le chaos. Vous me demandez pourquoi vous ne pouvez pas revenir en arrière. Tout simplement parce que c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire remonter un fleuve vers sa source. Josué arrêta le soleil sur Gibéon, mais vous voudriez surpasser Josué. Vous rêvez de ramener le soleil en arrière. Vous aspirez à faire marcher le temps à reculons
de midi à l'aurore.
En présence des machines qui épargnent le travail, de la production organisée, de l'efficacité croissante des combinaisons, vous voudriez retarder le soleil économique d'une ou plusieurs générations et le faire revenir à une époque où il n'y avait ni grande fortune, ni gros outillages, ni voies ferrées, où une légion de petits capitalistes luttait l'un contre l'autre dans l'anarchie industrielle, où la production était primitive, gaspilleuse, coûteuse et inorganisée. Croyez-moi, la tâche de Josué était plus facile, et il avait Jéhovah pour l'aider. Mais vous autres, petits bourgeois, vous êtes abandonnés de Dieu. Votre soleil décline, il ne se relèvera jamais, et il n'est pas même en votre pouvoir de l'arrêter sur place. Vous êtes en perdition, condamnés à disparaître entièrement de la face du monde. C'est le fiat de l'évolution, c'est le commandement divin. L'association est plus forte que la rivalité. Les hommes primitifs étaient de chétives créatures qui se cachaient dans les fentes de rochers, mais ils se coalisèrent pour lutter contre leurs ennemis carnivores. Les fauves n'avaient que l'instinct de rivalité, tandis que l'homme était doué d'un instinct de coopération, et c'est pourquoi il établit sa suprématie sur tous les animaux. Et depuis, il n'a fait qu'instituer des combinaisons de plus en plus vastes. La lutte de l'organisation contre la concurrence date d'un millier de siècles, et c'est toujours l'organisation qui a triomphé. Ceux qui s'enrôlent dans le camp de la concurrence sont destinés à périr. Pourtant, les trusts eux-mêmes sont nés de la concurrence, interrompit M. Calvin. Parfaitement, répondit Ernest, et ce sont les trusts eux-mêmes qui l'ont détruite. C'est précisément pourquoi, de votre propre aveu, vous n'êtes plus dans la crème. Des rires coururent autour de la table, pour la première fois de la soirée, et M. Calvin ne fut pas le dernier à partager l'hilarité qu'il avait lui-même provoquée. Et maintenant, puisque nous en sommes au chapitre des trusts, éclaircissons un certain nombre de points, reprit Ernest. Je vais vous exposer quelques axiomes, et s'ils ne vous agréent pas, vous n'aurez qu'à le dire. Votre silence impliquera votre consentement. Est-il vrai qu'un métier mécanique tisse le drap en plus grande quantité et à meilleur marché qu'un métier à main? Il fit une pause, mais personne ne prit la parole. Par conséquent, n'est-il pas profondément déraisonnable de briser les métiers mécaniques pour en revenir aux procédés grossiers et dispendieux du tissage à la main? Les têtes s'agitèrent en signe d'acquiescement. Est-il vrai que la combinaison connue sous le nom de trust produit d'une façon plus pratique et plus économique qu'un millier de petites entreprises rivales? Aucune objection ne s'éleva. Donc, n'est-il pas déraisonnable de détruire cette combinaison économique et pratique? Nouveau silence qui dura un bon moment, puis M. Cowalt demanda. Que faire alors? Détruire les trusts est notre seule issue pour échapper à leur domination. À l'instant, Ernest parut s'animer d'une flamme ardente. « Je vais vous en indiquer une autre, » s'écria-t-il. Au lieu de détruire ces merveilleuses machines, prenons-en la direction. Profitons de leur bon rendement et de leur bon marché. Évinçons leurs propriétaires actuels et faisons-les marcher nous-mêmes. Cela, messieurs, c'est le socialisme, une combinaison plus vaste que les trusts, une organisation sociale plus économique que toutes celles qui ont existé jusqu'ici sur notre planète. Elle continue l'évolution en droite ligne. Nous affrontons les associations par une association supérieure. Nous avons les atouts en main. Venez à nous et soyez nos partenaires du côté gagnant.
Tout de suite se manifestèrent des signes et des murmures de protestation.
« Vous préférez être des anachronismes, » dit Ernest en riant.
« C'est votre affaire. Vous préférez jouer les pères nobles.
Vous êtes condamnés à disparaître comme tous les reliquats d'atavisme.
Vous êtes-vous jamais demandé ce qui vous arrivera lorsque naîtront des combinaisons encore plus formidables que les sociétés actuelles?
Vous êtes-vous jamais préoccupé de ce que vous deviendrez lorsque les consortiums eux-mêmes se fusionneront dans le trust des trusts, dans une organisation à la fois sociale, économique et politique?
Il se tourna inopinément vers M. Kelvin.
Dites-moi si je n'ai pas raison.
Vous êtes forcé de former un nouveau parti politique parce que les vieux partis sont entre les mains des trusts.
Ceci constitue le principal obstacle à votre propagande agricole, à votre parti des granges.
Derrière chaque embarras que vous rencontrez, chaque coup qui vous frappe, chaque défaite que vous essuyez, il y a la main des compagnies. « N'est-ce pas vrai ?»
M. Kelvin se taisait, mal à l'aise.
« Si ce n'est pas vrai, dites-le-moi, »
insista Ernest d'un ton encourageant.
« C'est vrai, » avoua M. Kelvin. « Nous nous étions emparés de la législature d'État de l'Oregon et nous avions fait passer de superbes lois de protection.
Mais le gouverneur, qui est une créature des trusts, y a opposé son veto.
Par contre, au Colorado, nous avions élu un gouverneur, et c'est le pouvoir législatif qui l'a empêché d'entrer en fonction.
Deux fois, nous avons fait passer un impôt national sur le revenu, et deux fois, la Cour suprême l'a rejeté comme contraire à la Constitution.
Les cours sont entre les mains des associations.
Nous, le peuple, nous ne payons pas nos juges assez cher.
Mais un temps viendra où la combinaison des cartels dirigera toute la législation, interrompit Ernest,
où l'association des trusts sera elle-même le gouvernement.
Jamais, jamais ! S'écrièrent les assistants, tout de suite excités et combatifs.
Voulez-vous me dire ce que vous ferez quand le temps sera venu ? Demanda Ernest.
Nous nous soulèverons dans toute notre force, cria M. Asmundsen.
Et sa décision fut saluée d'approbation nourrie.
Ce sera la guerre civile, fit observer Ernest.
Guerre civile, soit,
répondit M. Asmundsen, approuvé par de nouvelles acclamations.
Nous n'avons pas oublié les hauts faits de nos ancêtres. Pour nos libertés, nous sommes prêts à combattre et mourir.
Ernest dit en souriant,
ne l'oubliez pas, messieurs. Tout à l'heure, nous sommes tombés tacitement d'accord que le mot « liberté », dans votre cas, signifie la licence de pressurer autrui pour en tirer des bénéfices.
Tous les convives étaient maintenant en colère, animés de dispositions belliqueuses.
Mais la voix d'Ernest domina le tumulte.
Encore une question. Vous dites que vous vous soulèverez dans toute votre puissance quand le gouvernement sera entre les mains des trusts.
Par conséquent, le gouvernement emploiera contre votre force l'armée régulière, la marine, la milice, la police, en un mot, toute la machine de guerre organisée des États-Unis. Où sera donc alors votre force à vous ?
La consternation parut sur les visages. Sans leur laisser le temps de se reconnaître, Ernest porta un nouveau coup droit.
Il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous-en, notre armée régulière n'était que de 50 000 hommes.
Mais ses effectifs ont été augmentés d'année en année, et elle en compte maintenant 300 000.
Il réitéra son attaque. Ce n'est pas tout. Pendant que vous vous livriez à une poursuite diligente de votre fantôme favori, le profit, et que vous improvisiez des homélies sur votre chère mascotte, la concurrence, des réalités encore plus puissantes et cruelles ont été dressées par la combinaison. Il y a la milice.
C'est notre force, s'écria M. Cowalt. Avec elle, nous repousserions l'attaque de l'armée régulière.
C'est-à-dire que vous entreriez dans la milice vous-même, répliqua Ernest, et que vous seriez envoyé dans le Maine ou en Floride, en aux Philippines ou partout ailleurs, pour écraser vos camarades révoltés au nom de la liberté. Pendant ce temps-là, vos camarades du Kansas, du Wisconsin ou de tout autre État entreraient dans la milice et viendraient en Californie pour noyer dans le sang votre propre guerre civile.
Cette fois, ils furent réellement scandalisés et demeurèrent muets. Enfin, M. Owen murmura,
« Nous ne nous enrôlerions pas dans la milice, c'est tout simple, nous ne serions pas si naïfs. »
Ernest éclata franchement de rire.
« Vous ne comprenez pas du tout la combinaison qui a été effectuée.
Vous ne pourriez pas vous en défendre, vous seriez incorporé de force dans la milice. »
« Il existe une chose qu'on appelle le droit civil, » insista M. Owen.
« Pas quand le gouvernement proclame l'état de siège. Au jour où vous parlez de vous lever en masse, votre masse se retournerait contre vous. Vous seriez pris dans la milice de gré ou de force. Je viens d'entendre quelqu'un prononcer le mot « d'habeas corpus ». En guise d'habeas corpus, vous auriez des post-mortem, en fait de garantie, celle de l'autopsie. Si vous refusiez d'entrer dans la milice ou d'obéir une fois incorporé, vous passeriez devant un conseil de guerre improvisé et vous seriez fusillé comme des chiens. C'est la loi.
Ce n'est pas la loi, affirma avec autorité M. Calvin. Il n'existe pas de loi pareille. Tout cela, jeune homme, vous l'avez rêvé.
Comment ? Vous parliez d'expédier la milice aux Philippines. Ce serait inconstitutionnel. La Constitution spécifie expressément que la milice ne pourra pas être envoyée hors du pays.
Qu'est-ce que la Constitution vient faire là-dedans ? Demanda Ernest.
La Constitution est interprétée par les cours, et celles-ci, comme M. Asmundsen l'a reconnu, sont les créatures des trusts. En outre, je l'ai affirmé, c'est la loi. C'est la loi depuis des années, depuis 9 ans, messieurs.
C'est la loi, demanda M. Calvin d'un air incrédule, que nous puissions être traînés de force dans la milice et fusillés par un conseil de guerre improvisé si nous refusons de marcher.
Parfaitement, répondit Ernest.
Comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de cette loi ? Demanda mon père.
Et je vis bien que pour lui aussi, c'était une nouvelle.
Pour 2 raisons, dit Ernest. D'abord, parce que l'occasion ne s'est pas présentée de l'appliquer. S'il y avait eu lieu, vous en auriez entendu parler assez tôt. Ensuite, parce que cette loi a passé en vitesse au Congrès et en secret au Sénat, et pour ainsi dire sans discussion. Naturellement, les journaux n'en ont pas soufflé mot. Nous autres socialistes, nous le savions, et nous l'avons publié dans notre presse. Mais vous ne lisez jamais nos journaux.
Et moi, je soutiens que vous rêvez, dit M. Calvin avec entêtement.
Le pays n'aurait jamais permis chose pareille.
Cependant, le pays l'a permise, en fait, répliqua Ernest. Et pour ce qui est de rêver, « Dites-moi si ceci est de l'étoffe dont sont faits les rêves. » Il tira de sa poche une brochure, l'ouvrit et se mit à lire. « Section 1, etc., etc., il est décrété, etc., etc., que la milice se compose de tous les citoyens mâles et valides, âgés de plus de 18 ans et de moins de 45, habitant les divers États ou territoires, ainsi que le district de Colombie. Section 7. Que tout officier ou homme enrôlé dans la milice, rappelez-vous, messieurs, que d'après la section 1, vous êtes tous enrôlés, qui refusera ou négligera de se présenter devant l'officier de recrutement après y avoir été appelé, comme il est prescrit ci-contre, sera traduit devant un conseil de guerre et passible des peines prononcées par ce conseil. Section 9. Que la milice, lorsqu'elle sera convoquée en service actuel pour les États-Unis, sera soumise aux mêmes règlements et articles de guerre que les troupes régulières des États-Unis. Voilà où vous en êtes, messieurs, chers concitoyens américains et camarades miliciens. Il y a 9 ans, nous autres, socialistes, nous pensions que cette loi était dirigée contre le travail. Mais il semble bien qu'elle était dirigée aussi contre vous. Le congressiste Wiley, dans la brève discussion qui fut permise, déclara que le projet de loi procurerait une force en réserve pour prendre la populace à la gorge. La populace, c'est vous, messieurs, et pour protéger à tout hasard la vie, la liberté et la propriété. À l'avenir, quand vous vous soulèverez dans votre force, rappelez-vous que vous vous révolterez contre la propriété des trusts et contre la liberté légalement accordée aux trusts de vous pressurer. Messieurs, on vous a arraché les crocs, on vous a rogné les griffes. Le jour où vous vous dresserez dans votre virilité, dépourvu d'ongles et de dents, vous serez aussi inoffensif qu'une légion de mollusques. « Je n'en crois pas le premier mot !» s'écria M. Cowalt. « Une telle loi n'existe pas. C'est un canard inventé par vos socialistes !» Le projet de loi a été présenté à la Chambre le 30 juillet 1902 par le représentant de l'Ohio. Il a été discuté au galop. Il a été adopté au Sénat le 14 janvier 1903. Et, juste 7 jours après, la loi a été approuvée par le président des États-Unis. Note. Everard disait vrai, bien qu'il ait fait erreur sur la date de présentation du projet, qui eut lieu le 30 juin et non le 30 juillet. Nous possédons à Hardis le Congressional Record, annales du Congrès, où il est fait mention de cette loi aux dates suivantes. 30 juin, 9, 15, 16 et 17 décembre 1902, 7 et 14 janvier 1903. L'ignorance manifestée à ce dîner par les hommes d'affaires n'avait rien d'exceptionnel. Très peu de gens connaissaient l'existence de cette loi. En juillet 1903, un révolutionnaire, E. Unterman, publia à Girard, Kansas, une brochure traitant de cette loi sur la milice. Elle se vendit un peu parmi les travailleurs. Mais déjà, la séparation des classes était assez tranchée, si bien que les gens de la classe moyenne n'entendirent jamais parler de cette brochure et demeurèrent dans l'ignorance de la loi. Fin de la note.